Bonjour, je suis Philippe. Je suis employé dans l'entreprise qui est en train de brûler joyeusement depuis le début de la nuit. Je suis très solidaire avec mes collègues de cette entreprise, mais je suis en colère à l'extrême envers certains hommes politiques qui se permettent la fantaisie de parler, de hurler et d'insulter les gens pour énerver une bande de rigolos qui foutent le feu partout. S'il vous plaît, messieurs les politiques, taisez-vous. Arrêtez de dire n'importe quoi, de nous insulter, nous les gens qui travaillons, nous ceux qui essayons de vivre normalement. Plus vous parlerez et plus il y aura le feu. Venez éteindre les incendies que vous avez allumés. J'aimerais bien, messieurs les présidents de l'UMP, monsieur le Premier ministre, prenez une lampe d'incendie, venez éteindre les feux de nos entreprises qui brûlent. Nous sommes 150 personnes à avoir aujourd'hui un salaire qui part en fumée. Qui va nous payer nos primes de qualité de travail? Qui va nous payer, nous, à rentrer à la maison et se dire face à nos femmes et à nos enfants, on va travailler, mais on peut pas parce qu'il y a des connards qui nous ont brûlé notre entreprise à cause de certaines personnes qui parlent, mais qui ne font rien de concret. Taisez-vous et agissez dans la rue. Descendez avec nous, pas pour faire de la fantaisie en costume cravate. Non, venez travailler avec nous, au lieu de nous foutre dans la rue maintenant. Parce que nous, on est dans la rue maintenant. On travaille plus et on sait plus comment on va faire pour bouffer. Voilà ce que j'ai à vous dire, messieurs les politiques. Silence, taisez-vous surtout. Arrêtez d'ouvrir votre gueule de grand connard là dans vos costumes trois pièces, s'il vous plaît. Faites quelque chose d'autre que de foutre le feu partout où vous allez. Mais surtout, venez éteindre ces putains d'incendies que vous avez allumés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour l'émission, je suis un des employés de cette société et je suis hors de moi. Jusqu'à présent, j'étais un vieux pacifiste, mais un très vieux pacifiste. Et pour le moment, j'ai la haine de ces putains de politiques. Merci, au revoir Daniel.
J'habite Clichy-sous-Bois depuis 4 ans et bien sûr, j'ai été très intéressé par les deux émissions sur Clichy et sur les événements, comme on dit. Pourtant, il y a deux choses qui me gênent et qui me semblent pas tout à fait indépendantes l'une de l'autre. La première, c'est la place que vous donnez au côté religieux du phénomène avec les interventions répétées des représentants religieux. Et la deuxième, c'est l'absence quasi totale dans ce reportage des représentants publics, des élus. Pourtant, je pense qu'ils auraient eu leur place et qu'ils avaient des choses à dire, parce qu'il n'est pas vrai de dire et de laisser dire que la population de Clichy-sous-Bois est laissée à l'abandon et que rien n'est fait pour elle. La municipalité en particulier se bat et dépense l'argent public pour améliorer, pour animer les quartiers sur le plan culturel, sportif, pour rénover l'habitat. D'ailleurs, un habitat qui est un habitat privé qu'on rénove avec de l'argent public. Et malheureusement, c'est la seule manière de le faire. Et c'est un danger de laisser entendre que au mieux les élus ne servent à rien, au pire ils profitent du système. C'est un signe avant-coureur du populisme. Les représentants religieux, les représentants des associations, ils ont leur place, mais jusqu'à preuve du contraire, dans une démocratie, c'est par le vote que se délègue le pouvoir. Enfin, merci pour vos émissions, c'était Bernard.
Bon, alors moi je suis Richard, j'écoute votre émission, là il y a longtemps que j'avais pas écouté. Mais alors vraiment, c'est une émission d'abrutis, faite par des abrutis, où tous ceux qui passent sur le répondeur sont tous plus abrutis les uns que les autres. Alors là, la palme revient à Daniel, là, dans le Gers, qui est complètement... faut qu'il fasse un traitement, parce que vraiment, il pète les plombs. Hein. Mais on entend que des gauchistes, comme s'ils étaient majoritaires, alors que vous êtes quand même une poignée d'abrutis et d'imbéciles. Mais en attendant, Sarkozy continuera son chemin, et j'espère bien qu'il sera président de la République et qu'il mettra tous ces abrutis au pas. Hein, il n'y a pas de problème, c'est pas ça qui lui fait peur, et on est là derrière, on est quand même suffisamment de Français à le soutenir pour faire en sorte que il mette tous ses voyous avec un grand V et toute cette racaille avec un grand R au pas. On est dans une république, on n'est pas dans un pays, dans une dictature africaine ou dans une dictature des pays de l'Est, hein, faut pas charrier. Alors, tous tes abrutis là, dis-leur qu'ils se calment parce que on se chargera de les calmer, hein. Ok, salut.
C'est Florence de Paris 20e. Écoutez, je vous appelle en fait parce que je suis en train d'écouter Éric Raoult ce matin sur France Inter, il est 8h37, et je suis profondément agacée par ce monsieur. Je l'ai entendu déclarer hier dans une mosquée qu'il allait prier avec tout le monde pour que la vérité soit faite sur la mort des deux jeunes gens à Clichy-sous-Bois. Je voulais dire à monsieur Raoult que pour connaître la vérité, on ne prie pas, on fait une enquête. Et deuxièmement, je trouve ça carrément gonflé que ce monsieur défende la veuve et l'orphelin parle des gens qui sont hors la loi, alors que lui-même se met hors la loi dans sa propre ville et préfère payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux, et tout ça pour être réélu. Et parce que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit à la télé devant tout le monde sans complexe, quoi. Donc Éric Raoult, ferme ta grosse bouche, quoi. Merci, au revoir.
Ben nous, on va l'ouvrir et vous l'avez ouverte sur le répondeur de la base. J'y suis. Ça fume et ça fulmine sur ce répondeur. Il y a des remugles délétères aussi, pas mal. Mais pas seulement, évidemment. Il y a des idées, il y a des constats, il y a des... Vous allez voir, c'est aujourd'hui une heure entièrement consacrée au message que vous avez laissé sur le répondeur de la base. J'y suis évidemment suite à ces deux jours de reportage que nous avons consacrés à la situation à Clichy-sous-Bois et autour. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. À signaler dans les repères des amis de la basse si j'y suis. Demain, les amis de la basse si j'y suis se retrouveront à Paris au café Le Lieu Dit, qui est au 6 rue Sorbier, dans le 20e arrondissement. Et c'est à 16h, donc demain, samedi. Et puis un nouveau repère des amis de la basse si j'y suis, c'est à Monchy-Breton, près d'Arras. Le bistrot s'appelle Tartous et compagnie. On l'a vérifié, c'est vraiment Tartous et compagnie. Et les gens du coin se retrouveront à l'initiative de Geneviève, c'était le cas une idée. Et ils se retrouveront tous les premiers jeudis du mois à 18h. Et le prochain coup, ce sera le premier d'ailleurs, le 1er décembre prochain. Voilà, bienvenue à ce nouveau repère de là-bas si j'y suis. Donc aujourd'hui, vous avez compris, c'est vous qui travaillez.
Je suis Raymond Tousladian, j'ai 72 ans et j'ai lutté toute ma vie d'ouvrière pour les avancées sociales, comme mes parents l'ont fait en 36. J'entends les infos dès 7h du mat, toute la journée. Les journalistes de télé, de radio, y compris ceux de France Inter, sortent tous les mêmes conneries et contre-vérités. Quand les jeunes des banlieues en ont marre de se laisser traiter de voyous, de racades, à nettoyer au Karcher par ce... foutriqué de Sarko, qui a oublié que sa famille est venue de Hongrie, je gerbe. Qu'est-ce que les jeunes attendent pour s'organiser de quartier à quartier, de banlieue à banlieue, et ce dans tout le pays, et exiger la démission d'abord de Sarko, mais aussi de tous ceux qui laissent faire l'assassinat de Demôme, les Villepin, Chirac et compagnie. Dans mon village, il n'y a pas de poulet, donc pas de peste aviaire. Pourtant, il y a des jeunes et des chômeurs. Basta de répression, de contrôle à la sale gueule, mais qui sont quand même exploitables à merci. Allez les gars, battez-vous, tous.
À chaque fois qu'ils se font contrôler par la police, ils se font taper, c'est pour ça qu'ils ont couru. À chaque fois qu'ils se font contrôler par la police, ils se font taper, c'est pour ça qu'ils ont couru. À chaque fois qu'ils se font contrôler par la police... ils se font taper, c'est pour ça qu'ils ont couru. À chaque fois qu'ils se font contrôler par la police, ils se font taper, c'est pour ça qu'ils ont couru. À chaque fois qu'ils se font contrôler par la police, ils se font taper, c'est pour ça qu'ils ont couru. À chaque fois qu'ils se font contrôler par la police, ils se font taper, c'est pour ça qu'ils ont couru.
Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie. Et puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, et qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise à une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches, on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas, on triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin. Tu savais qu'elle est l'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mordit l'histoire, et qui regarde son poupeau bouffer la sous-croix. Et ça fait des grands, et ça fait des grands. Et puis y'a la petite vieille qui en finit pas vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est qu'à l'oseille. On n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, On ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Monsieur, et les bandits. Ah, ah oui, c'est dangereux. Dangereux.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, parole de racaille, le répondeur.
Flight number 2, arriving from...
Moi, je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon de chercher. Non, c'est pas... Tant qu'on brûlera les voitures, on enverra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif.
Ouais, salut Daniel, c'est Aziz. Voilà, moi je pensais que j'étais bien intégré... Mais je m'aperçois, finalement, je suis qu'une racaille. J'ai deux enfants, et ils vont plus m'appeler papa, ils vont m'appeler racaille. Voilà, une racaille. Mais je crois que le problème, c'est pas les jeunes, c'est plutôt Sarkozy. C'est lui le problème. Ok, salut Daniel, ciao.
Allô, bonjour Daniel Mermet, émission de là-bas, si j'y suis. Michel, je voulais vous dire, votre émission a largement contribué à faire voter non au référendum sur le traité de constitution européenne. Faire pleurer les gens dans les chaumières, attiser une permanente lutte des classes, entretenir des récriminations sans réflexion, et surtout sans réflexion, est-ce là le but de vos émissions ? Merci.
Je trouve que ces jeunes de banlieue, bon, quels que soient leurs torts, quels que soient leurs défauts, qui sont énormes, quels que soient les problèmes de la société, etc., je trouve en fait que l'essentiel, c'est qu'ils sont extraordinairement vivants. Est-ce que quelqu'un, un jour, va se décider à leur dire ce qu'ils représentent comme chance pour notre société d'avoir des jeunes qui sont dans l'ensemble, beaux, vivants, en bonne santé, plein de dynamisme, que leur dynamisme, évidemment, pourrait servir à autre chose qu'à caillasser des voitures ou à jouer aux gendarmes et aux voleurs. Enfin bref, que c'est peut-être eux qui vont faire la société de demain, parce que bon, les auditeurs de là-bas, si j'y suis, je pense, sont tous extrêmement conscients que ce monde est en train de se casser la gueule joyeusement, je sais pas, mais en tout cas, il est en train de se casser la gueule. Et que c'est ces jeunes-là qui vont faire la société de demain, et pas les vieux dont je suis, malheureusement. Voilà, donc, petit message d'espoir avec peu de solutions, parce que pour l'instant, je n'en ai pas, mais c'est ça, je crois, qu'il faudrait leur dire que le monde, il est en train de changer, et que eux peuvent participer, et que ce changement devienne quelque chose de positif. Merci à tous, et bonne continuation.
Vous l'avez bien reconnu peut-être, si vous êtes des vieux habitués de là-bas, si j'y suis, la petite phrase entre le générique de l'émission et ses messages. Une phrase de Pierre Bourdieu à la fin du film de Pierre Karl, que Pierre Karl lui a consacré. La sociologie est un sport de combat. Bourdieu faisait un exposé, une rencontre à Mantes-la-Jolie, au Val-Fourré, quartier sensible, comme on dit, avec des gens, des jeunes, notamment de cet quartier sensible. Et en sortant, il avait été question de brûler des voitures, faut-il ou non brûler des voitures, et Bourdieu disait, dans la foulée, à condition d'avoir des objectifs. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui, hein, notre sujet, c'est pourquoi faire, quel sens ça peut avoir, pourquoi et pourquoi faire. C'est ce qu'on a entendu beaucoup sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Le premier constat qu'on a fait, c'est que quand on pense qu'il n'y a qu'un genre d'auditeur qui écoute là-bas, si j'y suis, ben c'est loin d'être la vérité. Ça nous réconforte aussi en nous disant qu'il y a une grande variété d'auditeurs, de sensibilités différentes qui écoutent France Inter, on le sait. Et là-bas, si j'y suis, souvent on se dit, oh, on doit être en train de faire pleuvoir ou c'est mouillé. Non, à en juger par des réactions souvent très violentes, très hostiles, ou plus nuancées, enfin, vous allez avoir un échantillon aujourd'hui. Je voudrais attirer votre attention, j'ai déjà fait dans la semaine, mais je voudrais revenir sur un petit événement que je trouve tout à fait passionnant, c'est la présence en France de deux femmes. L'une s'appelle Sarah et l'autre s'appelle Raouda. Sarah est israélienne et Raouda est palestinienne. Et ces deux femmes sont venues ensemble à appuyer par des associations, un certain nombre d'associations, dont la Ligue des droits de l'homme, l'UJFP, l'Union des Juifs pour la paix, l'association des travailleurs maghrébins, etc. D'autres associations aussi qui ont voulu que ces deux femmes rencontrent le public français un peu partout. Et pourquoi ? Eh bien parce que Sarah Layani est mère d'une jeune femme qui s'appelle Tali Fahima. Et Raouda, la palestinienne, elle aussi a deux garçons. Qu'est-ce que leurs enfants ont en commun de l'une et de l'autre, de l'israélienne et de la palestinienne ? Eh bien, c'est que leurs enfants sont en prison. Alors, elles veulent attirer l'attention sur les conditions des prisonniers politiques, parce que ce sont des prisonniers politiques en Israël, sur les conditions d'internement, sur la torture systématiquement pratiquée dans ces prisons. Et c'est pas seulement ces deux femmes qui le disent, mais ce sont des associations de droits de l'homme israéliennes, comme Betselem par exemple. Et puis elles raconteront leur histoire, chacune l'histoire de leurs enfants. Tali Fahima, la fille de Sarah Layani, qui est en jugement actuellement pour des charges extrêmement lourdes, pour avoir prêté assistance à l'ennemi en temps de guerre. Un jour, cette histoire fera sans doute l'objet d'un roman ou d'un film, mais pour l'instant, c'est une histoire terrible. Et puis, Raouda, avec ses deux fils, qui sont condamnés à de lourdes peines. Alors, je vous donnerai en fin d'heure les endroits où elles se trouvent, mais en tout cas, je sais que ce soir, elles sont à Marseille. Ce soir, 4 novembre, elles sont à Marseille et on pourra les rencontrer. Une rencontre publique a été organisée au 22 rue Stilati à Marseille. Donc voilà, ces deux, l'israélienne et la palestinienne, seront là ce soir pour vous rencontrer et parler avec vous. Elle parle, Raouda évidemment parle arabe et hébreu, Sarah parle hébreu évidemment et aussi français parce qu'elle est d'origine algérienne. Et puis il y aura autour d'elle des traducteurs et des amis qui les accompagnent dans ce voyage. Voilà pour ces rencontres. Et puis nous, ben voilà, on s'embarque sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Parole de racaille, le répondeur.
Gidince miydi vakira Hikkatça yabut mangama mide Lagu muydu cümide Kas ki vakir devla Kas gidince miydi vakira Hikkatça yabut mangama mide Lagu muydu cümide Kiltuça yasansa Su cilisa tutamasa Avayca Yeah.
Leda de Toulouse. Les jeunes n'ont manifestement pas suivi votre excellente émission en terre de Sarkoland. Sinon, ils auraient eu la lumineuse idée d'aller faire peur aux riches. Pourquoi s'attaquer aux voitures des ouvriers? Réveillez-vous, jeunes des quartiers populaires. Vous n'emmerdez pas le gouvernement en brûlant ces voitures-là. À quand l'émergence d'une conscience sociale et politique dans vos têtes? Moi, les Champs-Élysées ne me font pas rêver. Vouloir ressembler aux riches de Neuilly, non merci. Je préfère vivre dans mon quartier populaire, me battre pour avoir un travail intéressant, un salaire décent. Ça, ce serait génial. Pouvoir voir le monde, aller au ciné, faire un resto de temps en temps, se réunir pour discuter, danser, la vie, tout simplement. Mais pas la vie des riches, car ils ont assis leur richesse en exploitant les autres. Non, merci. Trop peu pour moi.
Ah oui, mais chère amie auditrice à Sarkoland, à Neuilly, on a des soucis aussi de sécurité. Il faut pas croire du tout que il y a qu'à Clichy, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout. À Sarkoland, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sécurité. Et on a dit beaucoup de mal sur ce pauvre monsieur Sarkozy. C'est ainsi, on va essayer de rétablir un petit peu la vérité. Il est à l'écoute aussi des habitants de Neuilly, puisque c'est chez lui. Vous allez voir, vous vous souvenez de Madame Dumont, non? Pas de Madame Dumont. On avait oublié de vous dire quelque chose. Enfin, elle avait oublié de vous dire quelque chose. Ou plutôt, on avait oublié un petit passage d'une émission précisément sur la sécurité à Neuilly.
Et la sécurité, est-ce qu'il y a à redire?
Oui, je pense qu'on est assez bien gardé. On voit pas tout. Quand Nicolas Sarkozy était là, il se montrait beaucoup. Il était là la nuit, il faisait des rondes, etc. Mais au point de vue sécurité, c'est vrai qu'il y a des agressions, il y a des trucs. Mais enfin, c'est par période. Moi, je sais que mes deux enfants, par exemple, ont été attaqués parce que un moment après Noël, c'est Olivier d'abord et Nicolas ensuite. Il y avait des bandes de gamins de banlieue qui venaient récupérer les cadeaux de Noël, c'est-à-dire les Weston, les chemises Lacoste, les montres Lacoste, les machins, les blousons.
Les Hugo Boss.
Exactement, tout ce qui était. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu terminé. Alors, enfin, moi, j'ai eu les deux quand même à un mois d'intervalle, ce qui m'a valu d'être reçu par Sarkozy dans son bureau.
Ah bon?
En disant, ma pauvre dame, je suis absolument désolée de ce qui vous est arrivé. Moi, je le connaissais autrement, mais.
Mais vous avez été reçu par le maire?
Ouais, par le maire, ouais. Il m'a dit, écoutez, je suis désolée, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, écoutez, j'en sais rien, mais essayez d'arrêter les bandes de gamins qui coincent les autres. Mais j'en ai pas entendu reparler. Enfin, il y a du racket comme partout, il y a de la grogue, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Enfin, je pense qu'on est quand même assez privilégiés.
Banlieue, c'est l'écrin que Paris un beau jour a choisi pour briller sur le monde. Banlieue, c'est un train qui s'enfuit emportant dans la nuit des amours vagabondes. C'est ma ville endormie lorsque sonne minuit, si jolie dans un coin de banlieue. Dessous de poésie, aux portes de Paris, sous un peu de ciel bleu, banlieue.
Écoutez, j'ai pris France Inter aujourd'hui absolument par hasard, c'est une radio que je n'écoute pas souvent, et je suis un peu indignée de la façon dont vous menez l'émission, parce que vous mettez en accusation la police, le ministre, tout, mais on n'entend jamais qu'une partie. La partie plaignante, mais cependant, et tous les gens dont on a brûlé les voitures, on pourrait peut-être en interviewer quelques-uns quand même. Si on avait brûlé votre voiture, je ne sais pas ce que vous auriez dit, est-ce que vous n'auriez pas dit, ah les salauds, ou quelle racaille en tombant dans un tas de cendres de votre voiture. C'est pas extraordinaire tout de même.
Bonjour Daniel, je suis très désolé d'apprendre que beaucoup de gens sont fâchés contre ces jeunes qui se révoltent, parce que moi je ne suis absolument pas fâché. Au niveau de leurs revendications, s'ils demandent la démission de Sarkozy, je suis entièrement d'accord avec eux. On peut pas être à la fois pyromane et pompier. Donc s'il faut revenir à des relations plus normales entre une partie de la population et la police, il faut un ministre de l'Intérieur qui est partisan de relations normales. entre les institutions et la population, et pas une brute qui dit des choses vulgaires, grossières, blessantes. Je propose d'ailleurs aussi, si ces jeunes demandent la libération de leurs camarades, je suis d'accord avec eux, et la preuve, je vais le dire, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Putain, ça me rappelle de bons souvenirs.
Des messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, dont un que voici, qui est, que nous avons trouvé particulièrement intéressant, il est assez long, mais écoutez-le soigneusement.
Jeune issue de l'immigration, j'ai écouté avec attention ton émission d'aujourd'hui après avoir regardé la litanie des images qu'on nous passe depuis plusieurs jours. Et puis je me suis rendu compte que certains des politiques avaient réussi leur schéma, savoir qu'ils nous avaient assimilés, puisque moi j'ai 38 ans. Je suis maman et au lieu d'être dans la rue, finalement je regarde ça comme tout un chacun à la télévision. Et je me sens révoltée, mais finalement assez impuissante pour agir, pour aller aider ces gamins, ces jeunes, qu'on a parqués dans des cités. Alors nos parents, c'était des cités dortoirs. Là, c'est des cités poubelles, parce qu'effectivement, l'habitat, contrairement à ce qui a été dit, est plus que dégradé. On se fout des gens qui habitent dedans. Alors, on a aussi beaucoup entendu parler de l'économie souterraine. Donc ça me fait rire parce que les politiques, ça les arrange bien, l'économie souterraine. Ça leur évite d'injecter de l'argent là où il en faut, c'est-à-dire pour faire des programmes d'accompagnement socio-professionnel, pour faire des programmes auprès éducatifs, parce que c'était affolant la manière, le manque de vocabulaire de vos interlocuteurs, de vos interviewés aujourd'hui. Je me disais, mais comment font-ils, combien ont-ils de mots dans leur vocabulaire? Ils ne savaient pas s'exprimer, ils ne savaient pas parler. Pourquoi? Parce que l'école les a abandonnés, le système éducatif républicain porteur de toutes ces grandes valeurs que je suis en train de te réciter maintenant, a abandonné les générations qui ont suivi la mienne. On a cherché à nous assimiler, finalement. Donc tous les jours, j'exerce le contrôle de la société sur des personnes défavorisées qui doivent vivre avec les minima qu'on veut bien leur laisser à disposition et se démerder avec. Et quand ils n'y arrivent pas, ils ont de l'école entre les pattes. Et moi, je dois faire passer la pilule à des gens leur disant « Vous avez 5 euros par jour pour manger. Oui, oui, monsieur, ça doit être difficile. Eh bien, écoutez, je vais vous faire un mot pour aller voir l'assistante sociale et demander un colis alimentaire. » Voilà. Donc c'est révoltant ce qui se passe, c'est révoltant à un autre titre parce qu'effectivement le ramadan vient de se finir, effectivement notre lieu de culte a été profané et aucun homme politique, aucun homme de la société civile ne s'est offusqué de cela. Qui a bien pu balancer une grenade à l'intérieur? On s'en fiche à la rigueur, on s'en fiche. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'un lieu de culte a été profané, a été attaqué, et qu'en aucun cas ça doit être acceptable par quiconque. Je me rappelle qu'il y a quelques lieux de culte qui ont été simplement tagués, et pendant la nuit, sans témoin, sans rien du tout. Ça avait donné lieu d'ailleurs à un fait divers assez remarquable. Et qu'est-ce qu'on a fait? Toute la classe politique et la société civile s'est étalée dans tous les médias, vous avez bien voulu les écouter d'ailleurs, pour dire c'est honteux, un lieu de culte a été tagué. Donc là, à nouveau, on attaque pendant le mois saint du ramadan, parce que c'est quand même un mois particulier dans le calendrier musulman, et on se demande à qui appartenait la grenade et qui a bien pu la balancer. On s'en fout qu'il y avait des gamins et des bonnes femmes à l'intérieur. Après tout, c'est que des arabes, c'est que les parents de ces racailles qu'on doit carchériser. Donc c'est révoltant. Je ne sais pas comment organiser une résistance à ce politiquement correct en ce qui concerne les jeunes de banlieue issus de l'immigration étrangère qui est venue, rappelons-le, aider la France à se reconstruire, parce que si ces cités de Clichy-sous-Bois, de Bobigny, de Aulnay se sont construites, c'est parce qu'il fallait construire Paris, construire le périph, construire le Stade de France, construire les autoroutes, construire la francilienne, construire tout ce réseau routier, autoroutier qui permet à des millions de gens de l'emprunter tous les jours et à la France de tenir la 5e place au rang mondial. mondial, des puissances mondiales. Voilà. Donc je ne sais pas comment le faire. Alors autre chose, j'entendais dans les témoignages aujourd'hui, faites-leur faire du sport, et je terminerai par là, c'est à ce sujet que je vous ai souvent appelé. Je suis la sœur aînée de Redouane Bougara, champion du monde de kickboxing, à qui on a fait faire du sport dans une banlieue, qui en est mort, donc faites-leur faire du sport si vous leur mettez des gens compétents. Et petite parenthèse, parce que finalement on se rend compte que c'est pas grand chose, et pourtant il y a eu un homme politique qui a eu et un conseil municipal qui ont eu le courage de le faire à l'époque, eh bien il y a une avenue en région parisienne qui s'appelle avenue Redouane Bougara, en hommage à ce jeune qui avait rendu sa ville et ses jeunes et ses quartiers une image positive. Voilà. Bah ouais. Ça, je crois que si Sarkozy le repérait, ça lui emboucherait un coin. Il y a une rue de France qui porte le nom. Bah, pas d'une racaille parce que ça serait porter atteinte à la mémoire de mon frère. C'en était pas une. Mais d'un jeune issu de l'immigration.
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura. Toi t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? Il y en aura de la bavure
et des collés au mur.
Et dans ce tas d'ordures,
Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi?
Y aura-t-il les langues de bois? Des selles en tout cas y'en aura. Du sang qui coule y'en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? Y'aura-t-il toi, y'aura-t-il moi, y'aura-t-il les langues de bois des ciels, en tout cas, y'en aura du sang qui coule, y'en aura pas.
Il n'était qu'une fois où ça ne finira, mais tout ça,
c'est entre toi et moi.
Oui, salut Daniel. Bah écoute, ça faisait deux ans l'année dernière. Et puis ben, ça fait 3 ans cette année. Alors ça fait 3 ans que quoi? Ça fait 3 ans que Sangatte est fermée. Ça fait 3 ans que Monsieur Sarkozy s'en réjouit. Et puis ben, en fait la réalité à Calais, c'est que c'est 400 réfugiés par journée qui sont pris en charge par des bénévoles qui leur donnent des repas, qui leur permettent de prendre des douches quelquefois, qui leur confèrent des soins médicaux. Donc voilà, c'est ça la réalité. La seule réponse du gouvernement, c'est le traquage et le matraquage par les flics, hein, on peut le dire, sans aucun respect de la dignité et des droits de l'homme. Voilà, et puis 3 ans que Sangatte est fermé, c'est aussi des bénévoles qui ont été mis en examen avec comme seul délit celui de la solidarité. Rappelons-le. Donc voilà, j'invite tous les gens qui entendront cette information qu'il y a une manifestation, une grande manifestation, j'espère, le 5 novembre à 14h à l'Algeco de Calais où est distribué le repas du midi. Et ne prévenez pas vos copains CRS parce qu'ils sont déjà très certainement au courant. Voilà, j'espère que le message va passer et continuons. Allez, au revoir.
En ces temps où l'on cherche à criminaliser la pauvreté et où la prison est la seule solution que l'on nous propose pour gérer les inégalités économiques et sociales, Mémoire à Vivre vous invite samedi 5 novembre à partir de 15h au Théâtre Expression 7 à Limoges à venir écouter les voix rebelles de Charlie Boer, Eliette Bess, Dominique Grange qui débattront de l'enfermement. Il nous semble aujourd'hui urgent à Mémoire à Vivre de construire un pont entre les résistances du dedans et celles du dehors pour rêver un monde sans ghetto, sans grille, sans mirador. Venez en débattre avec nous.
Oui, bonjour Hubert de la région rennaise. J'ai écouté ton émission hier sur les jeunes de banlieue. Ils parlaient de relations notamment avec la police de proximité. Et ce matin sur France Inter, j'écoute également un topo sur les prisons en France. Et bon, moi je suis le papa d'un jeune homme qui est condamné à une très longue peine de prison, que je vais voir régulièrement donc, et qui me parle de ses rapports avec les matons, les surveillants, qui ne sont que des rapports de force avec des gens qui sont pas bien formés, etc., etc. Et j'ai entendu un peu la même chose hier au sujet des jeunes avec leur rapport avec la police. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, d'autant plus que moi je peux dire, voilà, je suis d'une une famille qui est pas gâtée, et ma maman était il y a une trentaine d'années, quand j'étais jeune adolescent, également en prison, donc j'allais la voir à ce moment-là, bien sûr. Et rien n'a changé. J'entendais, avec d'autres mots bien sûr, et dans un autre contexte, la même chose de la part de ma maman que ce que j'entends aujourd'hui de la part de mon fils. Et je trouve ça tellement pitoyable. Voilà. J'espère que tu passeras mon message. Salut.
Et ben voilà, le message est passé. Beaucoup d'autres messages, on ne pourra pas tout passer. Désolé, navré pour des tas de messages intéressants, des tas de gens qui, des tas d'auditeurs qui ont des trucs formidables à raconter, comme celui-là, comme cet auditeur qu'on vient d'entendre. Excuse pour tous ceux qui ne passeront pas, mais on va essayer d'en passer un maximum d'ici la fin de cette heure spéciale répondeur suite, vous l'avez compris, aux deux émissions, deux reportages consacrés à Clichy-sous-Bois.
Oui, bonjour. Jonathan est passé me voir cet après-midi. Il était vraiment radieux. Il signe un contrat de travail dans quelques jours et m'a remercié de mon aide dans ses recherches d'emploi. J'étais aussi contente que lui. Il faisait vraiment plaisir à voir. Pourtant, il y a 2 mois de ça, c'était pas gagné. Des soucis avec la justice, beaucoup, beaucoup de détresse, de la difficulté à faire les choses, plein d'éclats de bois, des mises au point aussi bien pour lui que pour moi. Il y a 3 jours, je recevais Joël, 900 euros d'ACEDIC. Pas pressé de retravailler, mais il va s'inscrire à la NPE pour percevoir les droits qui s'est ouvert en travaillant avant. Et puis ce matin, c'était Gérald. Sans ressources, plus d'eau et d'électricité, absence de paiement, obligé de retourner un temps chez sa mère handicapée. Des talents de dessinateur, pourtant, des envies de musique, et en même temps un fonctionnement en inadéquation totale avec l'urgence des réalités économiques de sa vie. Et beaucoup, beaucoup de souffrance. Et puis aussi, il y a Aurélie, Marie-Laure, Bérangère, Marina, etc., etc., etc. À chacun son histoire. Depuis 12 ans que je travaille dans cette mission locale pour les jeunes, j'en ai rencontré plein, plein, plein. J'ai un bac plus 3, 20 ans d'expérience professionnelle et je gagne 1500 euros net par mois. Je me dis que les réalités sont complexes, que les politiques se succèdent et les mesures diverses et variées aussi. Je vis et je travaille en zone plutôt rurale qu'urbaine, loin des banlieues, avec d'autres problématiques, d'autres montagnes à soulever. Et puis ce matin, sur France Inter, j'ai entendu M. Bayrou qui proposait que la France d'en bas monte de quelques étages sans ascenseur afin de croiser à nouveau la France d'en haut qui loge au premier. Hein, j'ai ri. Ah, heureusement qu'il y a Jonathan, Joël, Gérald et les autres. Mais bon, je fatigue un peu quand même. Il y a quelques temps de ça, j'ai rencontré Bertrand Schwartz, un jeune homme de 86 ans et un peu le père des missions locales. Et je trouve que ça serait vraiment, vraiment bien s'il était invité à la base si j'y suis. Ça serait un bon endroit pour qu'il puisse dire tout ce qu'il a à dire. Et puis aussi, je voulais vraiment remercier Alain Rey, parce que c'est la seule raison que j'ai maintenant d'ouvrir la radio le matin sur France Inter. Et je le remercie pour sa définition du mot « racaille ». Oh, ça m'a fait du bien d'entendre ce qu'il disait. Qu'il dise si bien ce que je ressens si fort. Voilà. Merci à toute équipe. Au revoir.
Je voudrais parler là rapidement de 2 mots musclés, entre guillemets, qui ont été prononcés assez souvent par le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. C'est voyou et racaille. Je m'interroge quand j'entends dire que les propos du ministre de l'Intérieur sont musclés. Muscler son discours, si cela signifie quelque chose, c'est le rendre fort. Mais là, ça serait plutôt afficher une force qui n'est jamais prouvée, ce qui s'appelle aussi rouler les mécaniques. Dans ce vocabulaire présumé fort, nous avons eu le nettoyage au Karcher, publicité gratuite pour une firme allemande de jets d'eau sous pression, et quelques gentillesses à l'égard de ceux que Chevènement appelait naguère les sauvageons. Le ministre de l'Intérieur, dont on comprend qu'il ne supporte ni d'être caillassé, ni d'être invectivé, emploie des mots en effet assez forts, comme « voyou » ou « racaille ». Il semble bien les aimer. On les emploie sans s'attarder sur la nature du mépris qu'ils expriment. Mais leur origine, cependant, n'implique ni violence ni délinquance, et c'est curieux. Le voyou, dont on n'a parlé qu'au début du XIXe siècle, n'est jamais qu'un dérivé de voie, V-O-I-E, un vagabond donc, puis un gamin des rues, qui sont en effet des voies de circulation. Alors que routard est favorable, voyou est négatif et méprisant, allez savoir pourquoi. C'est un mot de bourgeois bien à l'abri, à l'égard de ceux qui traînent dans la rue, accusés sans nuance d'être nuisibles ou même criminels. Quand on parle d'État ou de patron voyou, il ne s'agit plus du tout de voie ni de rue, mais d'illégalité nuisible. Voilà une évolution très défavorable. Un cran plus dur que voyou, un autre mot frappant dans la bouche d'un ministre tout de même, un mot très peu raffiné qui est racaille, mot collectif, proche de canaille, qui signifie bande de chiens, lui, et qui s'applique aujourd'hui à un voyou, précisément. Une racaille, en verlan caïra, est un sale type. Comme avec voyou, on est dans un monde masculin, d'ailleurs. Racaille, c'est rascaille au Moyen-Âge, ce qui a donné en anglais « rascal », que Serge Gainsbourg traduisait par « vieille canaille ». Que signifie donc cette racaille qui entraîne la menace du nettoyage musclé ? Exactement, raclure. Racler, c'était rascar en ancien occitan, et les autres langues romanes connaissent ce verbe. Racler la racaille, c'est donc boucler la boucle, rogner la rognure. D'où peut-être le fantasme du nettoyage au jet, qui assimile certains êtres humains à des ordures, à une souillure. Le répertoire des injures est familier de cette image, mais améliorer la société et combattre la délinquance, ça ne se résout pas par des images de saleté à nettoyer. Étrange modèle social tout de même.
Riqui tiqui tiqui, canta el trubador, como una flor tan gorda que no tiene sabor. Qué rica es la vida y qué rico es el amor. No mates al toro, mata al toreador. Yo sí oigo a Don Omar, yo sí oigo a Marc Bolas. Yo sí oigo a Ben Chani, ¿ah? Así Sorgas me gusta a mí.
Bernard des Alpes-Maritimes, voilà à propos des événements qui se passent dans les banlieues chaudes, dites chaudes. Je reviens sur une notion qu'on avait entendue il y a quelques années à propos des mêmes événements, c'est le principe anthropique, c'est-à-dire que l'observateur influe sur les événements qu'il observe du simple fait de son observation, voire de sa simple présence pour les observer. Ce qui me fait dire que supprimer la télé, supprimer les médias, vous avez de chances, fortes chances, de supprimer les événements. Voilà, on peut peut-être essayer. Allez, bonjour à l'équipe, au revoir.
Ben oui, on essaye, alors plus d'observateurs, plus de... Là, je pense qu'on pousse le bouchon un peu loin entre un excès de médiatisation et une médiatisation mal foutue, spectaculaire, imbécile, etc. Et puis plus de médias du tout. Mais c'est vrai, bien sûr, que les médias jouent leur rôle et influencent le déroulement de ce genre d'événements. On rappelle, on citait Bourdieu tout à l'heure dans cette petite phrase qu'on a mis en exergue à cette heure, qui avait bien indiqué une formule très forte et violente, qui disait que les journalistes étaient des manipulateurs manipulés. Quand ils en sont conscients, c'est déjà beaucoup, mais je pense pas qu'on puisse vouloir qu'il n'y ait pas de médias du tout au cours d'événements comme cela ou d'autres. En tout cas, les critiques ont été assez vives, évidemment, sur ce sujet, dans le répondeur de la base J'y suis, suite à ces émissions, et puis en règle générale. On continue donc avec vos messages sur le répondeur de la base J'y suis.
Bonsoir, c'est Wen de Bretagne. Bonsoir à toute l'équipe. C'est juste pour réagir, je suis en train d'écouter l'émission paroles de Racaille. Et je sais pas, enfin je trouve juste la petite introduction que vous faites avec des témoignages de jeunes qui expliquent qu'on tue leurs frères, etc. etc. Mais je trouve que c'est un peu facile de mettre ça comme introduction, puis après de dire que les médias participent à dramatiser, vous faites la même chose. Parce que ce qui est très frappant, c'est que quel que soit le média, hein, que ce soit de France Culture, Europe 1, RTL, France Inter, la télé, ou etc., il n'y en a pas un, finalement, qui revient sur la seule chose qui aurait une vraie valeur pour l'instant. C'est-à-dire ce qui s'est passé à la base. On sait toujours pas ce qui s'est passé. On sait toujours pas si la mort dramatique, évidemment, de ces deux jeunes, mais est due à comment une réelle infraction de leur part, ou s'il y a eu des violences policières à la base, etc. Et quand même, enfin voilà, il s'est passé... un fait sûrement précis à la base qui mérite une enquête, et ça serait à l'honneur de la République, ça serait à l'honneur des journalistes, ça serait à l'honneur de la justice. Et on nous parle de tout, sauf de ça. On nous parle des voitures qui brûlent. Je veux dire, s'il s'avérait que ces deux jeunes étaient des délinquants, je vois pas pourquoi il y a 300 voitures qui brûlent, quand bien même leur mort est dramatique. S'il s'avérait qu'ils sont morts à cause d'une erreur et d'une bavure policière, alors je comprends les 300 voitures qui brûlent, et j'espère que ça sera su, et que les policiers qui auraient peut-être fauté seront lourdement condamnés. Mais, bon Dieu, pourquoi on revient pas au fait premier, et pourquoi vous ne participez pas à vous distinguer des autres médias qui ne parlent que des incendies qui s'allument partout, parce que c'est ça aussi, je pense, de comprendre un événement, et c'est même ça, à mon avis, la base quoi, de la compréhension.
Bonjour, Halima Barbet de Montignac en Dordogne. Voilà, je voulais réagir suite aux événements actuels dans les banlieues. Je vous remercie pour vos émissions, parce que vous êtes un des rares à parler de ce qui se passe et donner la parole à ces jeunes, parce que c'est assez scandaleux. Pourquoi il y a le racisme? À mon avis, c'est justement parce qu'on ne donne pas la parole à tous ces jeunes. Moi, j'ai vécu ça il y a une trentaine d'années, et je vois que ça continue. On est toujours... les jeunes sont... Mes enfants, ils sont encore discriminés par leur physique, bien qu'ils sont... On est plus ou moins intégrés, parce qu'il y a quand même trois générations. Je m'attendais à France Inter hier à écouter le ministre de la Solidarité, et comme par hasard, ça a changé, enfin je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, c'était Bérou. Ben voilà, on ne donne jamais la parole aux immigrés, c'est toujours à la police, ça devient vraiment dramatique. Je suis dans mon petit trou là, vraiment scandalisée, et heureusement qu'il y a vos émissions qui font plaisir, qui donnent la parole à ces gens. Voilà, c'est toujours pareil quoi.
Voilà, j'appelle au sujet des fameuses émeutes qui ont eu lieu là en région parisienne et ailleurs concernant le nettoyage au Karcher des banlieues. Moi je suis prof en lycée professionnel et je suis pas étonné de ce qui se passe hein, quand on connaît la frustration créée dans la jeunesse par nos politiques, hein, par les médias, renvoyer l'image du jeune consommateur qui réussit, qui a des belles nanas, qui a une belle bagnole, et se retrouver aujourd'hui dans un ghetto tel qu'un quartier populaire, tel qu'ils peuvent exister en région parisienne. Voilà des phénomènes de violence énormes. Parler de l'intelligence de la main à des jeunes qui avaient envie... qui rêvaient leur avenir et les renvoyer en hygiène des locaux, passer le balai dans un hôpital à 15 ans ou se retrouver dans des sections qu'ils n'ont pas choisies, voilà des violences qui se retournent aujourd'hui contre la société. Alors moi j'invite tout le monde à lire Pays de malheur de Stéphane Beau et Younes Amrani, qui est une belle claque dans la gueule et qui fera du bien à tous les bons pensants et qui montrera que la peur qu'ils ont et les explications, bien elles existent. Il existe réellement et on n'a pas fini de se battre hein, pour changer cette société. Salut.
Oui, bonjour Daniel, je suis un vieil auditeur, je t'écoute depuis des années, mais là tu deviens casse-pied. Tu as un discours dangereux. Ton émission d'aujourd'hui s'appelait
Parole de racaille. Et pendant cette émission, tu nous as fait écouter des gens bien. Ça voulait dire que tu sous-entendais que Sarko a traité de racaille des gens bien. C'est faux. Sarko a traité de racaille la bande de voyous, quelques poignées de voyous, qui volent, qui font du trafic de drogue, qui brûlent des bagnoles, etc., etc. Et dans les cités, mon cher Daniel, il y a bien des gens qui sont contents qu'on se débarrasse, effectivement, de cette racaille. Or, cette poignée de racaille, or, ces gens-là, dans ton émission, on ne les a pas entendus. Ton discours est dangereux, Daniel. Petit point de détail, hier, j'ai appris que ces pauvres jeunes de banlieue étaient équipés de portables qui faisaient caméra avec liaison Internet, etc., etc. Eh bien, ces petits jeunes de banlieue, ils ont du fric pour se payer tout ça. C'était un petit point de détail. Et si tu continues à parler comme ça des incidents de la cité, moi, je vais vraiment me fâcher contre toi, Daniel, et je ne vais plus t'écouter. Tu vas trop loin. Ton discours, je le répète, est dangereux.
Ça fait du bien d'entendre l'autre parole, les soi-disant racailles, parce qu'apparemment il n'y a pas que des racailles dans les cités. Moi, je ne vis pas en cité, mais bon, j'ai quand même un sentiment d'empathie pour ces jeunes qui se révoltent devant les propos du ministre Monsieur Sarkozy. Je ne justifie pas du tout les destructions d'écoles. C'est vrai que c'est inadmissible et je pense pas qu'ils devraient s'en prendre d'ailleurs à des écoles. Et je trouve que c'est vraiment intolérable les propos outranciers de Monsieur Sarkozy. Comment un homme comme ça peut être candidat à la présidentielle? Comment il peut représenter la France alors qu'il est visiblement atteint d'un complexe d'infériorité? Son envie d'en découdre est pathétique et il provoque des gens qui sont déjà en difficulté. Donc, moi, je lui propose plutôt de démissionner. D'ailleurs, je compte écrire à Monsieur Chirac pour que son ministre démissionne. Il pourra ainsi se consacrer à sa tâche, tout faire pour se faire élire en 2007, y compris vendre sa propre mère, parce qu'il est prêt à tout, cet homme-là. Donc, méfiez-vous du bulletin de vote que vous mettrez en 2007, parce que si on se retrouve avec un Le Pen-Sarkozy au deuxième tour, alors là, on aura l'air vraiment malin. Au revoir.
Voilà, c'était le spécial répondeur de la base si j'y suis. Je rappelle le titre du livre qui a été évoqué, le livre de Stéphane Beau et Younes Amrani, c'est Pays de malheur aux éditions de La Découverte. Pour les repères des amis de la base si j'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter, à la rubrique émission La base si j'y suis. Technique aujourd'hui, Lévin Caron et Stéphane Devernet. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assistante Pascal Le Pascariello. Le répondeur avait été préparé par Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, vous le saviez, c'est le 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.